Nous lirons ce matin un des textes proposés à l'ensemble des églises pour la méditation de ce jour, celui dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, les versets 11 à 19. C'est un extrait d'une prière que Jésus adresse à son Père avant de quitter ses disciples. Je ne suis plus dans le monde. Eux, mes disciples, sont dans le monde. Et moi, je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, moi je les gardais en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon celui qui est voué à la perdition pour que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je viens à toi et je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie complète. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi je me consacre moi-même pour eux, pour qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Donc nous venons de lire une partie du chapitre 17 de l'évangile de Jean, un chapitre qui correspond dans son entier à la prière de Jésus avant qu'il ne sorte pour aller dans le jardin où il sera arrêté avant d'être jugé, condamné et crucifié. Cette prière clôt ce que les exégètes appellent le discours d'adieu et qui commence dès le chapitre 13 de l'Évangile avec l'épisode du lavement des pieds. La prière de Jésus au chapitre 17 comporte trois parties. Dans la première partie, Jésus reprend son parcours dans le monde où le Père l'a envoyé. Il reprend sa mission auprès des disciples dont il va être séparé. Puis dans la seconde partie que nous venons de lire, Jésus prie pour ses disciples, il intercède pour eux. Et la troisième partie élargit la prière aux futurs disciples, ceux qui croiront plus tard. Le mot de prière évoque certainement des choses très différentes pour chacun de nous, pour les uns et les autres. Peut-être simplement des différences de posture, assis sur une chaise ou sur un banc, comme pendant le culte ou pendant la pause spirituelle du jeudi. Debout aussi, comme par exemple lors de la louange pendant le culte. Peut-être à genoux, sur le sol, ou sur un petit banc de prière, les mains jointes ou les mains ouvertes, ou posées sur les genoux, les yeux fermés ou levés au ciel. Ce mot peut évoquer des différences d'expression, prier avec ses propres mots, parfois un simple balbutiement. Prier comme cela a été appris ou reçu d'une famille, d'une communauté, d'une tradition. Prier avec les mots d'autres qui les ont priés avant nous, avec des psaumes ou avec des textes de prière rassemblés comme autant de ressources disponibles dans des recueils ou consultables sur Internet. Priez aussi en faisant silence, à l'écoute disponible. Ce mot de prière évoque des circonstances différentes. Prière du matin et prière du soir, prière avant un repas, prière pendant le culte, prière spontanée surgissant en raison d'un événement, de quelque chose que nous regardons, une reconnaissance, une gratitude ou un appel à l'aide. Prière prolongeant la lecture de la Bible, la méditation, le partage. Prière solitaire ou prière commune. Tous les évangiles mettent en scène Jésus priant. Action de grâce avant un repas, prière solitaire dont le contenu n'est pas du tout explicité, cri sur la croix. Dans ce chapitre de Jean, c'est une longue prière. La prière avant le départ de Jésus, une prière qui exprime ses derniers mots, en quelque sorte un testament. Un testament déposé dans une prière. Cette prière de parole est remplie de présence. La présence de celui qui prie, entièrement là, concentré, rassemblé dans toute son histoire, ainsi que l'indique le rappel de sa mission. Présence de celui à qui s'adresse la prière, dans une relation de proximité signalée par l'appellation « Père » et « Père Saint », car la proximité n'annule pas la différence. Et puis la présence de ceux pour lesquels Jésus prie. Les disciples, avec cette relation de sollicitude de Jésus envers eux, Jésus le bon berger, disciples qu'il ne laisse ni abandonnés ni démunis. Puisqu'il s'en va, il les confie au Père. Cette prière est remplie d'amour, même lorsqu'elle évoque la haine du monde, car l'amour n'est pas aveugle et n'aveugle personne. Présence et relation, voici bien ce qui peut remplir aussi nos prières, brèves ou longues. Présence de celui ou celle qui prie. La prière commence toujours par une sorte de « me voici », comme l'exprimait déjà dans le premier livre de Samuel, la prière du jeune Samuel que nous avons chantée tout à l'heure. « Parle Seigneur, ton serviteur écoute, je suis là, me voici ». Relation avec aussi celui à qui s'adresse la prière, sinon il n'y aurait pas de prière du tout, quelle que soit sa forme, cri, soupir, interpellation, contestation, protestation. Et puis relation avec autrui, particulièrement dans l'intercession, mais aussi dans la prière dite du Notre Père, puisque dire Notre Père fait entrer dans la prière tous les autres enfants de notre Père, même lorsque nous la prions dans la solitude d'une chambre ou dans le secret du cœur. Prière avant le départ, la prière de Jésus s'inscrit dans un long terme pour les disciples pour lesquels il prie. C'est tout le temps de son absence qui est embrassé, et c'est pourquoi cette prière nous concerne, c'est pourquoi nous pouvons en comprendre quelque chose pour aujourd'hui. Nous sommes toujours dans ce temps d'une absence de Jésus sur terre, dans le monde, avec nous. Il est question de la présence des disciples dans l'avenir de cette absence, ce qui est notre présent. Il est question de la présence des disciples dans le monde. C'est pourquoi nous sommes interpellés en ce 21e siècle dans le monde tel qu'il est. L'intercession de Jésus est articulée sur quelques verbes bien particuliers. C'est dire alors que la présence des disciples dans le monde est structurée par ces verbes. Et pourtant ces verbes ne sont pas des exhortations adressées aux disciples. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour eux de s'efforcer à ceci ou à cela. Il ne s'agit pas pour eux de faire l'effort de se comporter comme ceci ou comme cela. dans ce monde que Jésus reconnaît comme étant hostile aux disciples, dans ce monde que nous éprouvons comme extrêmement complexe, plein d'ambiguïté, de danger, d'incertitude, les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, son testament, ne consistent pas en une éthique, mais dans une prière d'intercession. C'est-à-dire une confiance au Père, confiance qu'il continuera à être Père, notre Père, confiance qu'il poursuivra son œuvre de Père. Et cette œuvre est dite en deux dimensions, gardée et consacrée, ou plutôt que consacrée, sanctifiée. Et cela, garder et sanctifier, garder les disciples, sanctifier les disciples. C'est le Père qui le fait. Ce ne sont pas les disciples. En l'absence du Fils, les disciples sont toujours au bénéfice de l'œuvre du Père. Mais ce n'est pas tout. Car en l'absence du Fils, les disciples sont toujours aussi au bénéfice de ce que le Fils a fait pour eux et que la prière rappelle au cœur de la partie que nous avons lue. Je leur ai donné ta parole. Donc nous avons trois verbes. Donner, garder, sanctifier. Nous bénéficions d'un don, d'une garde et de la sanctification. Et ainsi nous pouvons vivre dans le monde, puisqu'il s'agit de cela, puisque c'est cela qu'envisage Jésus dans sa prière. Je leur ai donné ta parole. Au cœur de ce passage, le rappel de ce que Jésus a fait, sa mission, ce pourquoi il a été envoyé, selon l'expression familière du quatrième évangile. Ce verbe « donner » est d'ailleurs un des principaux verbes de l'évangile de Jean. Il résume quasiment à lui tout seul une compréhension de Jésus et à travers lui une compréhension de Dieu, puisque ce que fait le Fils, c'est de révéler le Père. Qui donne ? Un Dieu qui donne. C'est une toute autre image que celle d'un Dieu qui s'impose, ou d'un Dieu qui tiendrait des comptes, ou d'un Dieu qui juge. Un Dieu qui donne. Pas un échange, pas une récompense, mais un don. Et ce qui est donné, en un mot, c'est sa parole, la parole de Dieu. En un mot, mais quel mot ? Vous connaissez l'expression « donner sa parole ». C'est un gage de confiance, une attestation de fidélité, que cette parole donnée a du poids, de la densité, qu'il s'agit d'une parole fiable. Et puis vous connaissez aussi l'expression « donner la parole », une autorisation afin qu'autrui parle et que sa parole soit écoutée, entendue, pour être comprise. Jésus le Fils, le Christ, lui, donne la parole de Dieu, parce que telle était sa mission. Et ce don de parole est fiable, et il autorise les disciples à parler à leur tour. La parole de Dieu, cela parle d'un Dieu qui est Dieu de relation, qui appelle à la relation, qui espère la relation. Et cela parle aussi d'un écart, et même d'une parole qui opère une coupure en celui qui l'écoute, une coupure entre soi, ce que l'on croit être, et le soi qui est appelé, une coupure entre soi et le monde, afin de dénouer les confusions. Car la parole donnée, c'est un don de sens, et donc un don d'existence. Naître à nouveau, naître d'en haut, devenir enfant de Dieu, être de Dieu, selon les expressions joanniques. C'est-à-dire ne pas recevoir son identité de son propre fait, ni d'instances mondaines basées sur les compétences, les qualités ou les échecs, ce qui structure le monde dans ses exigences de réussite, de classement, de compétition. La parole donnée ouvre pour l'existence une orientation décalée du monde, de ce monde qui prétend naître seul, naître de lui-même, sans parole, sans altérité, un monde absorbé par lui-même et qui prétend absorber tout ce qui est. C'est pourquoi le monde est hostile à ceux qui lui échappent, aux horizons dégagés de ses obsessions mondaines, aux cabanes bricolées en dehors de ses plans mondains, aux expressions libérées de ses cadres mondains et aux disciples affranchis de ses codes et même les contestants. Car la parole de Dieu, c'est une révélation, c'est-à-dire un éclairage porté sur le monde à partir d'une altérité qui ne lui appartient pas, qui ne lui est pas soumise. Et la révélation est double, portant à la fois sur ce qui anime le monde replié sur lui-même et sur sa structure, et en même temps, elle est révélation d'une autre structure, d'une autre animation, d'une autre orientation, poétisée par le prologue de l'Évangile de Jean, résumé aussi dans ce fameux verset de Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Un monde créé, basé, animé, orienté par l'amour et le don, qui est le monde véritable dans le regard, dans la compréhension des enfants de Dieu, des enfants du Père révélé par Jésus le Fils. Jésus prie pour cela, ses disciples. Il demande à Dieu de les garder dans son nom et de les garder du mauvais. Garder dans son nom. Dans les Écritures, le nom représente une manière de dire la personne. Le nom, c'est une manière de parler de Dieu ou de parler à Dieu sans utiliser de nom. Car pour Israël, le nom de Dieu, le tétragramme, ne se prononce pas. Et Dieu, le mot Dieu, n'est pas le nom de Dieu. Ce n'est qu'une convention pour le désigner ou pour s'adresser à lui, mais ce n'est pas son nom. Jésus prie Dieu de garder les disciples dans lui, dans Dieu. Et c'est vraiment un « dans » locatif. Alors deux choses. La première, c'est que si Dieu nous garde dans lui, c'est que nous y sommes déjà dans lui. Nous y sommes déjà dans cette dynamique de don, d'amour et de vie. Nous y sommes déjà dans cette relation, dans la vie éternelle, puisque c'est ainsi que l'évangile de Jean nomme la relation de foi, croire que Jésus révèle Dieu, que le Fils révèle le Père. La deuxième chose, c'est que, déposer dans la prière cette demande de garde, non seulement nous y sommes déjà, mais nous y resterons. C'est ce que nous pouvons comprendre de cette prière où Jésus demande à son Père de rester son Père et le nôtre, et de nous garder, non pas comme enfermés, bien sûr, mais comme vivifiés. La prière de Jésus, c'est aussi une manière d'assurer les disciples que le départ du Fils n'est pas une perte, que ce qui leur a été donné ne sera pas retiré, ce que rappellera également et autrement la fête de Pentecôte dimanche prochain. La parole a été donnée et elle n'est pas reprise. Oh, il arrive parfois que nous l'entendions un peu moins bien. C'est que les voix du monde sont tonitruantes, adeptes du rapport de force. C'est à celui qui criera le plus fort. C'est que les voix du monde peuvent être aussi assez séduisantes, tant elles sont empreintes, imprégnées de cosmétiques. Vous savez, cosmétique, c'est un mot de la famille de cosmos. Cosmos, c'est le monde en grec. Et le cosmétique, c'est ce qui maquille la réalité pour lui donner meilleure apparence, en dissimulant ce qui n'est pas avenant, en inventant des artifices pour produire une illusion. Illusion, dissimulation, rapport de force, autant de manifestations, et il en est d'autres, de ce mauvais, de ce mal contre lequel Jésus prie son Père de garder les disciples. Et nous l'en prions, nous aussi, délivre-nous du mal. car c'est être humain que d'être exposé, et même que d'être en proie à ces tentations de domination, de convoitise, d'indifférence ou de jalousie qui sont capables de détruire l'humanité de l'humain. Et cette garde divine n'est pas celle d'une forteresse qui mettrait à l'abri, mais celle d'un dévoilement et d'une résistance dont nous serions incapables par nous-mêmes, mais qui sont données par le moyen de la foi, de la communion, proximité sans confusion, créée par la grâce, l'amour, la bonté divine. C'est pourquoi Jésus exprime la finalité de la garde de Dieu en disant « afin qu'il soit un comme nous ». Un qui parle non d'uniformité, mais d'unité, de communion, de relation d'amour, c'est-à-dire de reconnaissance inconditionnelle et fraternelle. Et cela est offert au monde, dans le monde où nous vivons, où nous sommes envoyés, en disciples vivants de Dieu, comme envoyés comme un horizon, comme un don désirable, mais qui certes oriente à contresens des principes du monde. Un parle aussi de cohérence de l'existence de chacun à la parole, d'intégrité de l'être. Là où le monde replié sur lui-même pousse, cultive les divisions entre les êtres et les divisions intérieures jusqu'à l'éclatement de la personne à coups d'injonctions, d'allégeances multiples et de distractions. Un, dans ces deux dimensions d'unité et d'intégrité, est un chiffre d'existence, non pas codé, non pas secret, au contraire, clairement exposé dans le monde et pour lui. Enfin, Jésus prie le Père de sanctifier les disciples. La sanctification ne consiste pas en un rite particulier à accomplir pour rétablir ou assurer un état de pureté, non. Elle ne consiste pas non plus en un effort individuel de perfectionnement moral à mener dans la durée pour accéder à la sainteté. Non, non. La sanctification, c'est un don de Dieu. C'est lui qui le fait. Puisqu'il est Dieu qui donne, Dieu qui aime. Et la sanctification se produit dans l'accueil de la parole donnée. La parole qui est la vérité que personne ne possède. Parfois, nous en comprenons un fragment, une petite part de cette parole, de cette vérité. Et quand nous la comprenons, c'est-à-dire quand nous la prenons en nous, quand nous l'intégrons à notre être, nous en sommes transformés. La sanctification, c'est cette transformation intérieure qui est l'effet de la parole écoutée et reçue en nous. Et c'est tout au long de notre existence que cette transformation intérieure se produit. C'est un devenir et qui n'a pas d'autre but que ce devenir dans la divine dynamique créatrice. Devenir humain, devenir enfant de Dieu, devenir porteur de Christ, devenir Christ. Il n'y a pas d'objectif prédéterminé à atteindre. La sanctification, c'est ce chemin intérieur de devenir dans la foi. Parole donnée, garde divine, sanctification, tout cela est déposé dans une prière de Jésus pour ses disciples. Prière au Dieu qui donne, prière au Père donateur de sens et de vie. Et ce qui est dessiné ainsi pour les disciples, c'est la proximité du Dieu Père à leur égard, pour leur bénéfice. Une proximité qui ne réduit pas l'altérité, mais une proximité telle qu'elle révèle aux disciples Dieu comme fondement de l'être humain, sans que l'humain puisse se prendre pour Dieu. Et parce que les dernières paroles, le testament de Jésus est déposé dans une prière, cela désigne la prière comme un lieu de réponse des disciples, un « me voici » d'appeler par le don de Dieu, la reconnaissance de ce que l'infini de la transcendance rejoint et saisit notre existence toute limitée. L'évangile de Jean trace une voie qui relève de la mystique, une dimension de la foi qui n'est pas réservée à quelques croyants d'exception, qui ne néglige pas les Écritures, qui ne dévalue pas la grâce, qui ne dévalorise pas l'éthique, qui ne se satisfait pas de doctrine ni de dogme, qui ne s'oppose pas à la raison. Une manière de s'exposer à Dieu, à son énergie, à son amour, sa parole, à son souffle, pour mieux les recevoir, pour mieux bénéficier de l'élan de vie, de la lumière donnée, de l'espérance donnée. S'exposer à la présence, à la compagnie de Dieu, comme au sortir de l'hiver, on s'expose à la lumière et à la chaleur du soleil, comme le dit judicieusement le professeur André Gounel. S'exposer à Dieu et être envoyé, exposé dans le monde, vivant et en signe de vie, aimant et en signe d'amour. Amen.